Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet à la fois universel et très personnel. L'intimité, la relation profonde et la sexualité dans le couple marié. Et pour ça, on s'appuie sur un enseignement en deux parties de Bertrand Frémont. C'est de la mission « Salut et guérison à la possession ».
Oui, tout à fait. Et l'approche qu'il propose est assez spécifique, hein. Elle lie vraiment de façon intrinsèque l'intimité relationnelle et la sexualité.
C'est ça. Ça peut surprendre un peu par rapport à une vision plus séculière, on va dire, où on sépare parfois les deux.
Exactement. Le cœur de son enseignement, si je résume, c'est que la qualité de l'intimité émotionnelle, spirituelle, elle va déterminer où va le couple. La sexualité, du coup, c'est vu comme l'aboutissement naturel.
Presque spirituel même, selon ce qu'il dit. Pas juste un acte isolé.
C'est ça. Il décrit même une sorte de cheminement. D'abord la communication vraie, qui mène à une communion des cœurs, puis ça ouvre sur l'intimité profonde, et enfin l'expression sexuelle.
D'accord. Donc notre but aujourd'hui, c'est d'aller voir les idées clés de cet enseignement, comprendre cette vision du mariage, ses bases spirituelles, et puis ce que ça implique concrètement.
Et il y a des concepts assez forts hein, sur l'engagement, la communication, l'acceptation.
Oui, on va creuser tout ça. Alors, commençons par ce fameux « cœur à cœur » qui revient tout le temps. Qu'est-ce que c'est, au juste? Plus qu'une simple discussion, j'imagine.
Ah oui, bien plus. C'est présenté comme un temps vraiment dédié, un temps de qualité, sanctuarisé pour le couple, où on met la relation elle-même en valeur, activement.
Et c'est présenté comme vital.
Carrément vital, oui. L'idée forte, c'est que si on néglige ce cœur à cœur, intentionnel, ça a des conséquences. Bertrand Frémont dit que ça mène petit à petit à devenir des étrangers.
Des étrangers.
Oui, et puis il utilise le terme de colocataire.
Ah oui, ça parle.
Les raisons peuvent être multiples, hein, les enfants qui arrivent, la routine, le stress. Mais le résultat, c'est une perte de connexion. Et ça se sent souvent très fort quand les enfants s'en vont.
D'accord. Et il décrit des trajectoires possibles?
Oui, trois en gros. Pour un couple qui démarre amoureux, soit il reste amoureux, mais ça demande ce travail de cœur à cœur, soit ils deviennent colocataires, soit c'est le divorce.
Donc le but affiché, c'est vraiment de nourrir cet amour pour qu'il dure. L'image qu'il utilise, c'est celle du...
Du bon vin qui se bonifie avec le temps. Voilà.
C'est joli comme image. Et ce cœur à cœur régulier, ça prend quelle forme? Un resto, une balade?
Ça peut être ça, oui. Un dîner, une promenade. Mais le plus important, c'est le contenu de l'échange. C'est parler de soi.
De soi, c'est-à-dire?
Partager son vécu intérieur, comment on évolue, ses rêves, ses doutes, ses projets. C'est cette vulnérabilité, cette authenticité partagée qui permet de rester connecté. De continuer à se comprendre, d'éviter les non-dits, les ressentiments qui s'accumulent.
C'est vraiment cette intimité non sexuelle cultivée volontairement qui serait le moteur, en fait.
Exactement. C'est le moyen de ne pas se perdre de vue, de garder le lien vivant et de s'assurer qu'on avance toujours ensemble, quoi, avec une connaissance de l'autre qui reste actuelle.
D'accord. Autre point clé, la valorisation mutuelle. L'enseignement note qu'avec le temps, on a tendance à ne voir que les défauts de l'autre.
Oui, et il suggère que ce regard négatif est souvent lié à nos propres frustrations, des trucs qu'on n'exprime pas. Alors on arrête de valoriser, et parfois même, on critique activement.
Et ça, c'est décrit comme très négatif, j'imagine.
Très dommageable, oui. Il y a une analogie assez parlante. L'homme est comparé à un Zorro.
Un Zorro?
Oui, une sorte de prince charmant intérieur qui a besoin des encouragements de sa partenaire pour s'épanouir. Des mots simples, hein. « Ah chérie, c'est bien ce que tu as fait », ou « Je vois tes efforts ».
Et ça le motive?
Ça agit comme un carburant, oui, pour monter sur son cheval, pour donner le meilleur. Mais si on le critique tout le temps, il descend de son cheval, ça le décourage. Et l'enseignement va même jusqu'à dire que ça peut réactiver des blessures d'enfance. Le manque d'approbation des parents, tout ça, ça rendrait très sensible à la critique du conjoint.
C'est intéressant cette image de Zorro. Est-ce que c'est spécifique à l'homme, ce besoin d'encouragement, ou c'est pour les deux?
L'analogie est pour l'homme. Mais le principe de l'impact, de la valorisation ou de la critique s'est présenté comme valable pour les deux. Le besoin d'être vu, apprécié, encouragé par l'autre, c'est mutuel.
D'accord, c'est plus clair. Et ça fait le lien avec l'anecdote de ce thérapeute chrétien cité. Il raconte sa propre histoire.
Oui, une transformation. Il dit en gros, Pendant 15 ans, je voyais que les défauts de ma femme et mes besoins. Et puis, changement radical.
Et après ?
Depuis plus de 15 ans, je choisis de regarder mes défauts et les besoins de ma femme. Et il dit que ça a tout changé pour eux.
Waouh ! La recommandation pratique, c'est donc de choisir de voir le positif chez l'autre.
Et dans cette optique spirituelle, de prier ensemble pour les points à améliorer, plutôt que de critiquer.
Prier ensemble pour ça ?
Oui. Et ça mène à une question puissante à se poser dans le cœur à cœur. Chérie, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour que tu te sentes encore mieux aimée dans notre mariage?
C'est direct. Une invitation à grandir ensemble.
C'est ça. L'affirmation mutuelle, c'est pas juste sympa, c'est le carburant de la confiance, du bien-être dans la relation.
Parlons maintenant de la transformation personnelle dans le mariage. L'enseignement utilise l'image d'un puzzle. Dieu qui façonne les pièces.
Oui, les individus, pour qu'elles s'emboîtent parfaitement, pour devenir une seule chair, comme dit la Bible. Ça implique un processus actif, s'adapter, changer des trucs dans son caractère, ses habitudes, pour répondre aux besoins de l'autre.
C'est le contraire du « je suis comme ça » à prendre ou à laisser, quoi.
Exactement. Et ce processus, il est décrit comme nécessitant une aide spirituelle. Celle du Saint-Esprit, dans ce cadre, le mariage est vu comme un lieu privilégié pour ça, un creuset de transformation.
Plus que le célibat ?
Peut-être plus intensément, oui. Parce que la vie à deux, ça nous confronte tous les jours à nos égoïsmes, nos impatiences. Bertrand Frémond raconte d'ailleurs sa propre lutte avec la patience.
Ah oui.
Oui, face au retard de sa femme. Apparemment, il détestait ça. Et le mariage l'a obligé à bosser là-dessus, à évoluer.
C'est exigeant, mais il y a aussi un appel à l'acceptation, non ?
Oui, très fort. C'est l'équilibre. Accepter les limites humaines, les imperfections de l'autre et les siennes aussi. La formule est directe, hein. Ton mari n'est pas Dieu, ta femme n'est pas Dieu non plus.
Il faut lâcher les attentes irréalistes, en fait.
C'est ça, les attentes quasi divines qu'on projette parfois sur l'autre. Ça mène forcément à la déception, à l'amertume.
Et cette acceptation, elle est liée à la relation avec Dieu ?
Directement, oui. L'idée, c'est que seul Dieu peut combler les besoins les plus profonds, ceux qu'un autre humain, même aimant, ne pourra jamais satisfaire totalement. D'où l'importance de l'accord à trois fils, le couple et Dieu.
Faire la paix avec notre imperfection humaine.
Oui, avec notre cœur tortueux, comme le dit Jérémie dans la Bible, qui est cité, on est tous imparfaits.
L'enseignement le dit de façon assez brutale même.
Oui, ton mari te décevra, ta femme te décevra, tu décevras ton conjoint, tu te décevras toi-même.
C'est pas très optimiste.
L'idée, c'est pas le pessimisme, c'est le réalisme. Intégrer cette faillibilité pour construire sur du solide, où Dieu a sa place pour combler les manques, donner la grâce.
D'accord. Donc si cette base d'intimité, cœur à cœur, valorisation, acceptation, transformation est là, alors la porte de la chambre est grande ouverte. On arrive à la sexualité.
Voilà. Présentée comme voulue par Dieu, bonne, agréable, et surtout un sujet dont on doit pouvoir parler librement. Fini les tabous culturels ou familiaux.
Et sur le fond, l'acte sexuel s'est vu comment ?
Comme bien plus que physique. Un acte spirituel profond qui implique un attachement. L'homme s'attachera à sa femme dans la Genèse et qui scelle une alliance pour créer une seule chair.
Il parle du verbe « connaître ». Adam connu Ève.
Oui, le verbe hébreu « yada » ou « ginosko » en grec. Une connaissance intime, profonde, expérientielle. Pas juste savoir intellectuellement. Ça montre la profondeur de l'union visée.
Et il va plus loin, avec la vision tripartite acceptée. Esprit, âme, corps.
Oui, il affirme que les trois sont engagés dans la relation sexuelle. Et c'est là qu'il introduit ce concept de lien d'âme.
Les liens d'âme, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, attention, c'est un concept spirituel propre à cet enseignement. Hein. C'est décrit comme une connexion spirituelle et émotionnelle très forte qui se créerait pendant l'acte sexuel, justement parce que ça engage tout l'être.
Et la conséquence ?
C'est que hors du cadre protecteur du mariage, ces liens pourraient avoir des effets négatifs, non maîtrisés. Il donne un exemple assez marquant pour illustrer ça, toujours selon cette vision théologique précise.
Ah bon ?
Oui, d'une femme chrétienne qui aurait eu une relation avec un homme impliqué dans d'autres pratiques spirituelles. Et elle aurait eu des troubles ensuite, attribués à ce lien d'âme. L'idée, c'est qu'on pourrait récupérer des choses négatives de l'autre par ce biais.
D'accord. Je comprends mieux pourquoi il insiste tant sur le cadre du mariage comme sécurité pour cet acte sacré.
Exactement.
Et pour ceux qui ont eu des relations avant ou hors mariage, il propose une démarche.
Oui, une démarche de restauration. Repentance, pardon, y compris pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est vu comme clé pour sa propre guérison et une prière spécifique pour briser les liens d'âme passés, pour retrouver sa liberté, sa pureté pour l'union actuelle.
D'accord. Donc une fois ce cadre posé, la sexualité dans le mariage, c'est pas un bonus.
Non, c'est un aspect central, un ciment puissant qui renforce le lien. Le Cantique des Cantiques est cité comme une célébration de cet amour érotique légitime. L'accent est mis sur le don de soi, pas sur le plaisir égoïste.
Et il parle des différences hommes-femmes.
Oui. Il invite à en être conscient, le désir masculin plus spontané, visuel, le désir féminin plus lié au contexte émotionnel, au romantisme, à la connexion.
L'excitation plus rapide chez l'homme, plus lente chez la femme.
C'est ça. Mais c'est pas un problème insurmontable. Ça demande surtout de la communication, de la patience, de l'écoute, s'ajuster l'un à l'autre.
Communiquer ouvertement sur ses désirs, ses préférences.
Absolument. Oser dire ce qui plaît, ce qui gêne, sortir des silences. La tendresse est soulignée comme cruciale pour la femme. Il cite un proverbe Fitz-Henry. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, sa tendresse.
Et il faut entretenir la séduction.
Oui, prendre soin de son corps, continuer à se valoriser. Tu es le meilleur, tu es la plus belle pour moi. Ça entretient la flamme, selon lui.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vu comme une performance.
Non, pas du tout. C'est un voyage de découverte mutuelle, sur toute une vie. Il faut pouvoir en rire, parfois, apprendre ensemble, s'améliorer. Et la communication est encore la clé pour résoudre les difficultés. Fréquence, problèmes physiologiques, différence de libido.
Ils abordent aussi les obstacles?
Oui, plusieurs. La mauvaise estime de soi, par exemple. Là, l'amour et la valorisation du conjoint peuvent aider à guérir. La fatigue aussi, un grand ennemi.
Faut planifier, alors?
C'est suggéré, oui. Ne pas toujours reléguer ça à la fin d'une journée épuisante. Les différences de désir aussi, c'est commun. Ça demande dialogue, compréhension et parfois un effort de don de soi.
Et les liaisons extra-conjugales?
Abordées comme une vraie menace, oui. Souvent vues comme le symptôme de besoins émotionnels non comblés dans le couple. Attention, affection, écoute, se sentir désiré.
Et comment s'en protéger, selon lui?
Trois piliers clairs. 1. Des limites personnelles claires. Contrôler ses pensées. Éviter les situations à risque, genre le repas en tête-à-tête avec le ou la collègue attirante.
D'accord.
2. La redevabilité. Oser parler de ses luttes à un ami de confiance, un mentor. Ne pas rester seul avec ça. Et 3. Maintenir une vie sexuelle active et satisfaisante dans le couple. Ça renforce le lien, ça diminue la vulnérabilité.
Il parle aussi de la pornographie.
Oui, comme d'un fléau majeur. Il cite des chiffres qui font réfléchir. Même chez les chrétiens, 8-9 hommes sur 10, 4-5 femmes sur 10 qui toucheraient.
C'est énorme.
Présenté comme tel, oui. Une addiction qui déshumanise, qui crée des attentes irréalistes et qui abîme l'intimité réelle, la connexion dans le couple.
Et enfin, comme outil de protection, il met en avant la prière en couple.
Oui, la prière à deux, à haute voix, l'un pour l'autre. Il cite des études américaines qui montreraient une chute spectaculaire du taux de divorce chez les couples qui font ça régulièrement.
Moins de 0,1%. C'est incroyable si c'est vrai.
C'est ce qui est rapporté, oui. Présenté comme un moyen de souder le couple et d'inviter une aide spirituelle.
Bon, alors si on résume tout ça. Cet enseignement de Bertrand Frémont, de saluer guérison à la possession, il nous donne une vision très...
intégrée.
C'est ça. L'intimité profonde, le cœur à cœur, cultivé avec soin, avec intentionnalité, c'est la source indispensable d'une sexualité épanouie. Et cette sexualité est vue comme sacrée dans le mariage.
Et ça demande un engagement actif des deux. Communication, valorisation, acceptation des limites, transformation personnelle, don de soi. Tout à fait. La sexualité, c'est bien plus que le physique. C'est une communion totale. Esprit, âme, corps. Scellé et protégé par l'alliance du mariage.
Et ce qui est fort, c'est cette idée d'interdépendance.
Oui, une sorte de cercle vertueux. La qualité de la relation nourrit la sexualité et une sexualité saine renforce le lien du couple.
Ça invite à réfléchir même au-delà du cadre spécifique de cet enseignement, non? Quelle place on donne vraiment à la construction patiente de l'intimité émotionnelle comme base de l'union physique?
Exactement. Et comment cette perspective d'un lien profond, voire sacré, qui passe aussi par la sexualité, résonne avec notre propre quête de connexion authentique et durable aujourd'hui?
Voilà, ça fait beaucoup à méditer. Notre exploration des enseignements de Bertrand Frémont s'achève ici. Une matière riche, dense. Merci de nous avoir suivis pour cette discussion approfondie.